Bonjour à tous, je n'ai pas salué. C'était un peu juste pour le temps, mais voilà. Je dois vous apporter les salutations de nos anciens de Belfort, spécialement Philippe Garnier qui vient ici de temps en temps, Philippe Manga et Christian. Ils m'ont dit bien qu'ils pensent bien à vous en cette journée. J'aimerais lire donc pour notre moment de partage deux textes. Genèse, au chapitre 8. Verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent de la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. » Dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Un autre verset dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta lecture de ta parole et que nous puissions recevoir quelque chose de ta part ce matin. Amen. Peut-être étrange, les deux versets, les deux lectures que j'ai faites, on croit se rejoignent. Mais il y a quelques temps, dans nos assemblées en Alsace, de notre coin là-bas, on a l'habitude de faire la fête des moissons. Je ne sais pas si c'est un peu la votre coutume ici. Et on a un culte de reconnaissance, et bien sûr, dans nos églises, devant, il y a toutes sortes de fruits ou de légumes qui sont exposés, manifestant notre reconnaissance envers Dieu de ses bénédictions. Et je pensais, quand je voyais toutes ces expositions, comment Dieu tient ses promesses. Si dans nos jardins, dans nos cultures, nous pouvons cultiver encore maintenant, c'est parce que nous sommes au bénéfice de cette promesse que Dieu a fait à Noé. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est-à-dire qu'encore maintenant, lorsque nous sommes dans notre jardin cultivé, nous sommes donc au bénéfice de cette promesse que Dieu a tenue. La terre était pourtant maudite. Depuis la désobéissance d'Adam, Dieu dit à Adam, dans Genèse 3, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture. Il te produira des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. En Genèse, chapitre 2, verset 15, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver. La Bible ne dit pas ce que la responsabilité de cultiver comprenait. En tous les cas, il n'y avait pas de désherbage à faire, pas besoin de glyphosate pour nous polluer, alors peut-être seulement entretenir. En réfléchissant à cela, je me disais, mais qu'aurait été la nature s'il n'y avait pas eu cette malédiction? Tous ces fruits qui auraient été produits, il n'y aurait pas eu de pourriture? Je ne sais pas. Alors, je vais arrêter d'épiloguer parce que je n'ai pas de réponse. Mais voilà. Alors que travailler maintient en forme, ouais. Adam n'avait pas besoin de piocher l'herbe. Je n'en avais pas. Qu'est-ce qu'il devait faire? Mais voilà. Il n'y avait pas que la terre qui a subi les conséquences de la désobéissance d'Adam. Adam lui-même et l'humanité entière va en payer le prix. Pour la femme, grossesse difficile, l'autorité de l'homme sur elle, pour l'homme, gagner son pain à la sueur de son front, la souffrance inhérente à toute existence est le plus important, nous sommes privés de la relation privilégiée avec Dieu. Ça, ce sont les fruits de la désobéissance. Mais il y a aussi la brièveté de la vie et la certitude de la mort physique, car la mort physique n'était pas prévue dans le plan initial de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle fait si mal. Mais Dieu avait un plan B. Traiter une alliance nouvelle. Dieu a toujours désiré faire alliance avec son peuple. Une preuve qu'il désire toujours nous associer à ses projets. Il y a eu l'alliance en Éden, bien sûr. Après le déluge, il en traita une avec Noé, avec l'arc-en-ciel, comme témoin de cette promesse. Avec Abraham, en Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Avec Moïse au Sinaï, dans l'Exode, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Avec Israël, en Deutéronome 30, quand tu serais exilé à l'autre extrémité de la terre, j'irai te chercher moi-même et je te ramènerai dans ton pays. C'est quand même fabuleux. Quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit, quand même, Seigneur, qui dit. Bien sûr, Israël a été dispersé par sa désobéissance, mais Dieu a promis de le rechercher lui-même, de les rechercher. Ce plan B, donc, implique une alliance nouvelle. Et c'est Jérémie qui en donne un peu la primeur. Jérémie 31, verset 33. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La loi ne sera plus gravée sur des tables de pierre, mais dans leur cœur. » Dieu désire par cette nouvelle alliance une relation personnelle avec chacun de nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux précise que les sacrifices et les ordonnances charnelles imposées étaient seulement jusqu'à une époque de réformation. Nous lisons ça dans Hébreux chapitre 9, verset 10. Versets 11 et 12. Mais Christ est venu et il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette nouvelle alliance, cette nouvelle réforme, Christ l'a inaugurée en mourant pour nous. Cette nouvelle alliance est supérieure à celle conclue avec les patriarches. Christ, par son sacrifice volontaire, pleinement agréé par Dieu, revendique le droit d'inaugurer cette nouvelle alliance. Souvenez dans l'évangile de Luc, chapitre 22, lorsqu'il était prêt de mourir, il a rassemblé les siens, il s'est retrouvé avec eux et il disait, j'ai vivement désiré me retrouver avec vous avant de souffrir. Et dans un moment précieux, lorsqu'il a instauré la Sainte Cène, ce repas, avec ses disciples, il leur dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est une alliance de cœur à cœur avec sa création. La prophétie de Jérémie se réalisera quelques heures plus tard, lorsque le sang de notre Sauveur coula sur la croix pour nous racheter et nous faire grâce. Nous sommes encore maintenant au bénéfice de cette grâce imméritée, tout comme la terre est encore, avec pourtant une condition, se reconnaître pécheur et indigne face à la sainteté de Dieu. Nous sommes encore maintenant en bénéfice de cela. Mais pour éviter la condamnation, nous n'avons pas d'autre choix que de nous réfugier au pied de la croix. C'est là que Dieu pardonne, c'est là qu'est la sécurité avec la certitude que Dieu tient parole. L'apôtre Paul exhorte ainsi les chrétiens de Rome. Il leur dit, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Tout comme la terre qui produit des épines et des mauvaises herbes, suite à la malédiction prononcée envers Adam, notre cœur est aussi envahi de mauvaises pensées, de rancune, de jalousie, de critique parfois. Et on ne peut rendre un culte agréable à Dieu s'il n'a pas été purifié par le sang de Christ, qui nous purifie de tout péché. Et cette purification rend notre cœur pur, propre, pour recevoir l'Esprit Saint, qui nous rendra capable non seulement de rendre un culte agréable, mais d'être capable de faire des œuvres bonnes. Rappelez-vous la parabole du semeur. Seul le terrain débarrassé des épines, des cailloux, des ronces, portera du fruit, qui viendra à maturité. Si la terre a pour vocation de produire de la semence et du fruit, notre vocation à nous, en tant que chrétiens, c'est la même, porter du bon fruit. Je précise de porter du bon fruit parce que même les ronces portent du fruit. Et dans Matthieu 7, verset 15, Jésus nous met en garde envers les faux prophètes qui portent du mauvais fruit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit-il. Que veut dire porter du bon fruit? Porter du fruit, c'est le produit extérieur, visible, résultant de la condition intérieure du cœur. En Galates, l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La clé pour porter du fruit, Jésus nous la donne en Jean 15. Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien produire de bon. Le verset 2 de Jean 15, Jésus nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Dieu le retranchera. On est conscient, on sait très bien qu'une branche qui est détachée du pied, précoupée, ne portera pas de fruits, va sécher. Nous sommes appelés à maintenir cette relation personnelle avec le Seigneur, telle la sève qui coule dans les branches. Notre vie chrétienne, sans une relation permanente avec Dieu, peut devenir une routine et tomber dans le piège d'une vie stérile. Il y a des fruits dans la parabole du semeur, à cause de la sécheresse, qui ont commencé à se former, mais qui ne sont pas venus à maturité. La parole du semeur donne un détail concernant les épis étouffés. Étouffés par toutes sortes de choses. Si nous n'avons pas une vie épanouie, peut-être parce que nous laissons étouffer par les soucis de la vie, le souci d'une bonne situation, peut-être un chômage qui perdure. Ce qui est tombé dans les épis, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Donc, impropre à la consommation. Quels fruits portons-nous autour de nous? Pour porter du fruit, Jésus nous en donne la clé. Restez attachés à lui. Dans Jean 15, nous dit-il, vous ne pouvez porter du fruit si vous ne restez attachés à moi. C'est-à-dire, un attachement continuel, être avec en communion avec son esprit, sans à-coup. Alors maintenant, je vais demander à Christian s'il peut projeter la photo. Voilà. Bon, il y en avait d'autres plus explicites, mais bon. Ah ben. Non, on les voyait mieux, les cernes. Mais celle-là, elle est bien. Vous savez que les cernes correspondent à une année. C'est comme ça qu'on compte l'âge de l'arbre. Et chaque année, chaque hiver, il y a la sève est au repos, et ça se transmet par un arrêt de la croissance, et toutes ces cernes, ben c'est quelques mois de repos, ensuite l'activité, et chaque année, ça se reproduit. Pourquoi j'ai montré cette photo? Je me demande si parfois on n'est pas un peu comme cela. Si le Seigneur voyait notre vie spirituelle, notre marche avec lui, si on n'était pas un peu par à coup. Oui, c'est bien. Pas toujours le temps d'ouvrir la Bible et de passer un moment avec lui. Les soucis du siècle, les blessures, le boulot prennent le dessus, mettant un coup d'arrêt à notre croissance, à notre marche spirituelle et notre communion avec Dieu. Ça, c'est la semaine, hein, on n'a pas le temps. Mais heureusement, il y a le dimanche, alors le dimanche, on se retrouve ensemble, on loue le Seigneur, on revient avec lui, et ça fait un cercle de plus. Et le Seigneur le voit, comment nous fonctionnons avec lui. Si notre marche avec lui est en saccadée, par à coup, si de temps en temps nous venons vers lui pour recevoir de lui des bénédictions, et de la semaine, on n'a pas le temps de penser à lui, on se laisse dépasser par les soucis, comme le dit la parabole. Romains chapitre 6, verset 20, Paul pose la question aux chrétiens de Rome. Lorsque vous étiez esclaves du péché, quel fruit portiez-vous? Oh oui, tout le monde porte du fruit, mais parfois du fruit amer, incomestible. Des fruits, dit-il l'apôtre Paul aux chrétiens, dont vous rougissiez. Vous en rougissez aujourd'hui, quand vous pensez à ce que votre vie était. Mais maintenant, vous avez pour fruit la sainteté. Alors, quand j'ai préparé ce message, je me suis arrêté parce que quand on pose la question, est-ce que tu portes du fruit? On pensera à quoi? Le témoignage? Est-ce que notre vie fait un pacte sur les autres? Est-ce qu'elle fait les gens veulent connaître ce que nous connaissons par notre témoignage. Oui, c'est un fruit. Mais là, le fruit que nous parle l'apôtre Paul, c'est la sainteté. Nous aimerions tous porter du fruit, nous sentir utiles dans l'œuvre de Dieu. Et c'est cela quand on parle de fruit. On pense aux résultats de notre témoignage, les victoires remportées sur le péché, aux traités qu'on a distribués, aux calendriers qu'on a distribués, ou qu'on va distribuer peut-être à l'approche de Noël, peut-être à l'investissement dans l'église locale. Est-ce que c'est ça les fruits de l'esprit? Peut-être, oui. Est-ce vraiment des fruits spirituels? Car ces qualités, on peut les retrouver chez quelqu'un de religieux, mais qui n'est pas sauvé. Moi, j'ai un collègue de travail qui est témoin de Jéhovah, mais il a une vie exemplaire, presque mieux que moi. Fidèle, pas de gros mots dans tout ce qu'il entreprend. Il a un témoignage pour moi. Mais il ne porte pas de fruits. Je suis triste pour lui et je prie continuellement pour qu'il découvre la grâce du Seigneur. Dans Matthieu 7, lorsque Jésus nous met en garde contre les faux prophètes en disant « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », il ajoute « Ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ça nous interpelle. Comment le Seigneur nous voit? Quels fruits nous portons devant lui? Ces fruits d'ordre spirituel doivent nécessairement venir de lui. Lui-même, de lui-même, et non de notre caractère, de notre activisme, si louable soit-il. Nous ne pourrons jamais porter des fruits pour Dieu dans notre vieille nature corrompue dès la désobéissance d'Adam. Le fruit dont parle Jésus est forcément un fruit de l'esprit qui tire son origine de Dieu et qui ne peut croître que dans notre nouvelle nature, celle qui nous vient de la foi en l'œuvre de Christ accompli à la croix. Et c'est de cette sève-là que nous croîtrons, parce que nous resterons attachés à lui. Selon Galates chapitre 5, verset 22, vous connaissez, nous l'avons lu tout à l'heure, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes des attitudes extérieures qui viennent en nous, qui nous permettront d'être agréables aux autres. Mais cela, c'est tous des sentiments qui nous viennent de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas les fruits impropres à la consommation, mais qui porteront du fruit jusque dans la vie éternelle. Ce fruit n'est pas celui de nos efforts humains pour s'améliorer, mais l'action de Dieu, l'action de l'Esprit Saint en nous, qui nous permettra de porter ces fruits. Car c'est vrai, de par nous-mêmes, on n'est pas patient, de par nous-mêmes, on n'aime pas, de par nous-mêmes, on est orgueilleux. C'est la nature héritée. Alors on a besoin d'être transformé, d'être nourri de cette sève continuellement de Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Qu'il n'y ait pas ces serres à jouer, ces espaces où nous avons laissé tomber le Seigneur parce qu'il ne nous convenait pas, il ne répondait pas à nos prières. Le but de la vie chrétienne, c'est Jésus qui nous la donne. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc une condition et une résolution. Pourquoi nous portons du fruit? Nous devons porter du fruit. C'est pour que Dieu soit glorifié. Alors, une condition. Restez attachés à Christ et à sa parole. Méditons-la comme il nous l'a conseillé jour et nuit. Nous laissons imprégner que chaque action de notre vie soit contrôlée par le Seigneur. Alors ne craignez pas la taille du divin vigneron. Ne craignez ni les difficultés, ni les épreuves. C'est Dieu qui s'occupe de vous pour que vous portiez du fruit qu'il honore. Le premier cantique que nous avons chanté était un cantique qu'il y a un moment donné que nous ne pouvions pas chanter. Et que certainement beaucoup ne pouvons pas chanter parce que trop dur. Lorsque nous avons perdu notre gendre, à 30 ans, tu donnes et tu reprends, nous ne pouvions pas chanter. Mais la suite de ce cantique dit, mon cœur choisit de dire, béni soit ton Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une attitude de soumission à la parole, au plan de Dieu, qu'on ne comprend pas, mais nous devons nous incliner. Oui, Dieu nous a montré qu'il s'occupe de tout. Alors, une parole pour tous ceux qui passent aussi par les moments difficiles. Dieu s'occupe de vous. Même si l'épreuve est parfois dure, nous devons l'accepter. Accepter cette taille du divin vigneron, cet émondage pour que nous portions encore plus de fruits, que notre témoignage soit plus vrai. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, nous encourage ainsi, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice, un autre fruit à produire, de paix, de justice. Le fruit de la justice, nous dit le prophète Ésaïe, sera la paix, le repos et la sécurité. Il y a un cantique qui dit « Sois ma lumière, sois ma vision, sois ma source. » Que ce soit votre expérience à tous ce matin, que le Seigneur vous aide, vous accompagne à marcher, à aller de l'avant, même si parfois le chemin est dur, on sent encombré, comme il a demandé à Marthe d'enlever la pierre, il va le faire. D'enlever ces obstacles qui sont par là, ces ronces, ces cailloux qui nous empêchent d'être fructueux pour le Seigneur. Laissons-nous conduire et imprégner cette sève de son Esprit Saint qui va nous rapprocher de lui et qui nous permettra de produire un fruit qui arrive à maturité parce que constamment il est alimenté par son Esprit. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons par ta parole. Merci parce que chaque instant, chaque jour, nous faire du bien, nous encourager. Seigneur, merci pour nos cœurs ce matin. Tu vois, nous avons surtout fait évoquer des choses difficiles de la vie. Mais Seigneur, nous nous inclinons devant ta sagesse. Et nous te demander de nous rendre, apporter des fruits qui t'honorent, qui te glorifient. Merci pour le don de ton esprit, un esprit qui veut nous voir grandir en toi. Sois béni, Père, pour tous les membres. Cette assemblée, nous prions pour la famille, ceux qui ne sont pas parmi nous, prions pour les personnes âgées, malades, entourées de ta présence et de ta bonté, Seigneur, et qui puissent ressentir que tu les aimes. Nous te prions pour notre monde, Seigneur, avec toute cette folie, ces drames. Nous prions pour l'Ukraine, souffrance, exauce la prière des chrétiens. Nous prions pour la Palestine, Seigneur. Oui, ce peuple qui s'est éloigné de toi. Tu as promis que tu le ramènerais. Alors maintenant, nous voulons croire que tu commences à accomplir ton œuvre, mais nous voulons prier. Nous avons une prière, c'est la seule. C'est que ton peuple capitule devant toi et que tu te reconnaisses comme son Messie, ton sauveur, leur sauveur, pour mettre fin à tant de souffrances, à tant d'injustices, à tant d'amertume. Seigneur, merci encore pour ta fidélité, merci pour ta protection sur les uns et les autres et que nous puissions avoir une semaine bénie en ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.